Dernier acte. Chapitre 1. Ce fut une longue journée d'attente. Dans cette gare d'abord, puis dans celle de Limoges et dans les rues du Vieux-Périgueux, enfin. Bien qu'elle n'y fût jamais venue, cet endroit lui rappelait des tas de souvenirs. D'Artagnan était là, partout, qui s'engouffrait dans un estaminet en gueulant
« Hola, Faquin ! Hola, tavernier du diable, ton meilleur vin !»
Sinon, il y avait beaucoup de bouteilles d'huile de noix, des confits, des coups farcis et les mêmes enseignes de fringues que partout ailleurs dans le monde entier. La fleur de lys en avait pris un coup dans la barrette. Il faut dire qu'en Chine, ils les brodaient pour beaucoup moins cher. Bah, c'était notre monde. Il fallait l'aimer. Et puis ces vieilles pierres-là, qui vous racontaient des romans de cap et d'épée, ça ne se franchisait pas. Mathilde flânait car elle avait décidé d'attendre la fin du service, de se montrer dans la pénombre. Non que ce fût plus romantique, mais elle avait les foies. Ouais, elle nous la jouait badaud dans Philosophie du terroir, mais en vérité, elle n'en menait pas large, notre jeune amie. Le courroux du grand chef éconduit l'avait ébranlé. Peut-être que l'animal en question était réellement piqué au bout du compte. Peut-être qu'elle allait se jeter dans la gueule d'un loup, ou pire, d'un abruti, ou d'un qui s'en tapait grave le coquillard de la petite bourge friquée des Champs-Élysées, avec ses fausses promesses et ses mots qui s'en souviennent. Ou tellement, tellement pire encore, d'un qui lui dirait dans quelques heures et en lui indiquant la pendule « Désolé, on ne sert plus. » Oui, peut-être qu'elle était sur le point de perdre encore une vie à ce jeu idiot qu'elle s'était inventé pour passer le temps. Misère.
« Hola, tavernier, un coca bien frais pour tenir la tripaille de la mignotte. »
Place du marché, elle se mit sur la pointe des pieds et photographia un joli pèlerin sculpté dans la pierre et sur la route de Compostelle.
Clic-clac.
Souvenir de vacances. Au pire, si les choses tournaient vraiment mal, elle s'en ferait un fond d'écran. Genre de post-it au bâton pour se rappeler à jamais combien il était risqué d'aimer son prochain et d'y croire encore. Chapitre 2. Minuit moins le quart. Voilà deux bonnes heures qu'elle poirotait sur un muret en face de l'auberge du Tonton. L'endroit était coquet, plein de poutres, de cuivre, de rires et de tintements. D'Artagnan et sa bande s'y seraient beaucoup plu. Les derniers lambins s'ébrouaient en songeant à régler leurs additions, et le coca ne faisait plus effet. Mathilde caressait son ventre en le suppliant de porter beau encore quelques instants. Ses paumes aussi. Ses paumes poissaient. À présent, il n'y avait plus de clients, mais on s'agitait toujours dans la salle. Une dame rentra le tableau noir posé devant la porte. Un jeune garçon, un casque de moto sous le bras, la salua avant d'allumer une cigarette et de ficher le camp. Un autre dressait de nouveau les tables qui venaient d'être libérées, pendant qu'un gros monsieur moustachu en tablier de vigneron, l'oncle, s'affairait derrière un comptoir. Ensuite, plus rien. Mathilde bouillait. À force de lever en dedans, des jurons excédés parvenaient enfin à se faufiler entre ses dents, pourtant bien serrés. Un bourdonnement dans la nuit.
« Putain, mais qu'est-ce qu'il fout de bordel ? Allez, allez, cassez-vous, bande de cons, cassez-vous. Et toi, tu sors quand, toi ? T'as pas fini de me faire tourner en bourrique à la fin ? Allez, là, lâche tes culs farcis et sors un peu de ton boui-boui, merde !»
Au bout d'une dizaine de minutes, la dame et le garçon réapparurent enfin et s'embrassèrent juste devant elle, avant de s'éloigner dans des directions opposées. Puis, toutes les lumières s'éteignirent. « Eh !» fit-elle en sautant sur ses pieds avant de traverser la rue en courant. « Et je vais pas dormir là, moi !» Elle se cogna aux tables, fit tomber une chaise, jura dans sa barbe, et, tel un éphémère, se dirigea vers l'unique source de lumière qui pouvait encore la guider. L'imposte, le hublot d'une porte de cuisine. Elle la poussa lentement, en retenant son souffle, sa fierté, ses chocottes et sa bidoche. Un homme en veste blanche était concentré sur ses mains. Debout, affairé, il bricolait un truc posé devant lui sur un plan de travail en inox.
« Tu peux y aller, je fermerai. Mais laisse-moi tes clés, j'ai encore oublié les miennes »
lança-t-il sans quitter son ouvrage des yeux. Elle sursauta. C'est à sa voix qu'elle le reconnut tant il avait fondu.
« Au fait, t'as prévenu Pierrot pour les riz de veau ?
Et comme, hélas, non, elle n'avait pas prévenu Pierrot, il a fini par lever la tête. Chapitre 3. Son visage ne manifesta ni surprise, ni joie, ni étonnement. Que chic. Il la regardait. Il la regarda pendant... C'était difficile à dire. Les secondes n'en sont plus vraiment dans ces cas-là. Elles sont rares et comptent triple. Pendant une éternité, mettons. Et elle, elle la bouclait. D'abord, elle était épuisée. Et puis, c'était bon, là. Elle avait fait sa part de boulot. Elle ne bougerait plus un cil. À son tour, à présent. À son tour de prendre leur histoire en main. De dire une bêtise et de tout compromettre ou de dire... Elle ne savait pas. Quelque chose qui lui permettrait de s'asseoir et de souffler enfin. Il avait senti tout cela. Ça se voyait sur sa figure qu'il se battait avec les mots. Les mots, la fatigue et ses souvenirs. Qu'il cherchait. Qu'il était sur le point d'eux, puis se dédisait. Qu'il avait peur et qu'il était aussi empêtré qu'elle. Il baissa de nouveau la tête et revint à ce qu'il absorbait. Pour gagner du temps et parce qu'il était plus intelligent les mains occupées. Une longue pierre rectangulaire bleue était posée devant lui. Il affûtait ses couteaux. Elle l'observait. Il jouait au mikado avec leurs nerfs et ce chuintement calme et régulier les apaisait tous deux. C'était, se disait-il, peut-être autant de minutes de gagner sur un éventuel éboulement de tout. Il inspecta la lame, apprécia son tranchant en la laissant filer tel un archet sur l'ongle de son pouce gauche, puis la tourna et se remit à son travail d'effileur. Une sorte de pâte sombre s'était formée sur la pierre. Il y dessinait des boucles, des huit et des volutes en pesant de tout son corps sur les trois doigts qui guidaient l'acier. Fascinée, elle détaillait ses ongles courts qui blanchissaient sous l'effort, leur couronne de pulpe durcie et tailladée, et cachée sous le manche en ébène, le fameux annulaire décaloté. Ce doigt-là, borgne, doux et pâle, elle eut envie de le toucher. Sans lui jeter un seul regard, il tira vers lui un bol d'eau et caressa de nouveau la pierre pour l'humecter. Les frottements de la lame, les petits points rageurs de leur cœur trop longtemps enfermés, le bourdonnement de la chambre froide au loin, les bercèrent encore un moment, et puis on entendit des pas dans la pièce d'à côté, le « clac » d'un disjoncteur, le bruit d'une porte que l'on refermait, d'une paire de volets que l'on tirait, et d'une serrure, non, de deux, que l'on actionnait. Ils se trouvèrent plongés dans le noir, et ce fut à ce moment-là seulement qu'elle le vit sourire. Ses fossettes étaient dans sa voix. Ah, dommage, parce que, comme je te disais à l'instant, j'ai oublié mes clés. Il savourait déjà, et elle se taisait toujours. En tâtonnant derrière elle, elle trouva un tabouret, le tira, et s'assit en face de lui. Après tout ce bruit, le silence de nouveau. Ça me fait plaisir, murmura-t-il. À force de la malmener, elle avait rouvert la petite plaie sur sa lèvre inférieure. Était-ce à son tour de parler ? Pitié, non, pas maintenant. Elle était trop fatiguée. Elle était venue jusqu'à lui parce qu'il ne l'avait pas volée, qu'il continue sur sa lancée. Pour gagner encore quelques secondes de sursis, elle joua avec sa lèvre abîmée. Elle la mordillait là où elle avait le plus mal et têtait son propre sang. « Tu as maigri, » reprit-il. « Toi aussi ?»« Oui, moi aussi. Moi plus que toi. J'avais plus de marge, tu me diras. » Elle souriait dans le noir. Il se balançait d'avant en arrière, comme s'il avait voulu creuser, raboter et vider la pierre. Au bout d'une minute encore, ou de deux, ou de trois, ou de mille, il ajouta toujours aussi bas. « Je croyais que tu... que je... non, rien. » Une mouche venait de s'électrocuter dans le halo bleuté d'un piège posé près du pass. « Tu as faim ?» finit-il par lui demander en la regardant pour la première fois de sa vie. « Oui. Moi aussi. » Comme elle souriait, elle avait mal. et comme elle avait mal, elle se léchait les babines. Elle salivait sur sa lèvre pour la cautériser, tandis qu'il essuyait soigneusement son grand couteau. « Déshabille-toi. »